Cette émission est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Vivons-nous dans une Europe de plus en plus inégalitaire où le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser? La montée des populismes et des partis d'extrême droite, les mouvements contestataires comme les Gilets jaunes en France nous interpellent. Mais il y a beaucoup de surprises dans ce panorama européen où la France apparaît assez préservée alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont accentué la fracture sociale. Autre surprise, de nouveaux acteurs comme la République tchèque qui compte de plus en plus d'ultra-riches qui entendent bien compter dans le monde, à la tête d'empires médiatiques ou même du gouvernement. Reportage à Prague d'Alexis Rosenzweig.
Požadujeme za prvé demisi Andreje Babiše.
Impossible aujourd'hui d'évoquer les grandes fortunes de Tchéquie sans parler du Premier ministre Andrej Babiš, fondateur d'un empire agro-industriel et médiatique, toujours sous le coup de procédures à cause de ses multiples conflits d'intérêts supposés et avérés, ce qui a poussé de nombreux Tchèques à plusieurs reprises dans la rue pour demander sa démission. Originaire de la Slovaquie voisine, Andrej Babiš est à 65 ans un cas exceptionnel parmi les plus grandes fortunes de la République tchèque, car il est celui qui a osé se lancer ouvertement en politique grâce à ses millions et avec le succès qu'on lui connaît. Pour le reste, comme pour bon nombre de milliardaires du coin, sa réussite dans les affaires est au moins en partie liée à un réseau bien fourni datant de l'époque communiste. Andrej Babiš avait en effet un statut assez élevé dans les arcanes du régime précédent. Il a d'ailleurs exprimé quelques regrets en novembre dernier. C'était à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du communisme à Prague.
Comme vous le savez certainement, j'étais membre du Parti communiste. Je n'en suis pas fier. Comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, je n'ai pas été à cette époque aussi courageux et engagé que les dissidents et que Havel. Par ailleurs, je n'étais pas en Tchécoslovaquie en novembre 1989.
À la différence de la génération d'Andrej Babiš, les milliardaires tchèques plus jeunes ont l'avantage de ne pas pouvoir être suspectés de compromission avec l'ancien régime. Figure parmi eux, par exemple, Radovan Vitek, qui a récemment racheté la station de ski UP de Grand Montana en Suisse, et aussi un certain Daniel Křetínský, devenu en quelques mois le plus célèbre des milliardaires tchèques après son entrée fracassante sur le marché médiatique français, dans le capital du groupe Le Monde, entre autres. Lui aussi est propriétaire de plusieurs médias en Tchéquie, où journaux, radios et télévisions ont été rachetés par quelques-unes des plus grosses fortunes nationales.
La plupart des super-riches en République tchèque ont la fortune à cause des années 90 avec la capitalisation et avec la privatisation.
La jeune journaliste Eva Soukenikova travaille pour un des sites d'information les plus populaires du pays.
Il y a à peu près 5 Tchèques super-riches avec les médias dans leur portfolio, par exemple Křetínský, Babiš ou Bakala. Avoir des médias en propre, ce n'est pas pour enrichir la fortune, pas du tout. C'est vraiment, oui, j'ai les médias comme toi. Pour se montrer, oui, j'ai médias, j'ai l'influence. Et ce n'est pas influence, c'est influence symbolique, je dirais. Avec notre premier ministre, Andrej Babiš, il a un des plus grands médias en Tchéquie. Et dans sa position comme Premier ministre, c'est-à-dire c'est vraiment un grand problème.
S'il y a bien un secteur autre que les médias et la politique dans lequel on croise inévitablement les personnes au patrimoine les plus fournis dans la capitale tchèque, c'est celui de l'aviation privée. Daniel Valèche en sait quelque chose. Après avoir passé quelques mois à laver la carlingue des jets privés à l'aéroport de Prague et constaté que ce marché de niche était en pleine croissance, ce passionné d'avions de 24 ans à peine a fondé une start-up, Strafos, qui vise à unifier et simplifier le système d'affrètement. Le jeune homme est aujourd'hui débordé, et joignable uniquement par messagerie vocale.
Les statistiques des dernières années montrent clairement que les Tchèques sont de plus en plus nombreux à voyager en jet privé et le trafic à Prague s'intensifie. En général, il s'agit de location de petits appareils capables de voler 2 à 3 heures de suite. Mais de plus en plus, les personnes très riches achètent des avions plus gros capables d'effectuer des vols long courrier.
Et Daniel Valech a déjà levé près d'un demi-million d'euros avec son business plan basé sur une clientèle très très aisée, toujours plus nombreuse en période de croissance économique et dont il pourrait bientôt faire partie si son projet aboutit.
Et les super riches ne se déplacent pas seulement en jet privé, ils aiment aussi les Ferrari. Le constructeur automobile au cheval cabré, basé à Maranello dans le nord de l'Italie, ne s'est jamais aussi bien porté, ventre record l'an dernier. Les explications de notre correspondant en Italie, Olivier Bonal.
10 131 véhicules vendus en 2019, jamais Ferrari n'avait connu ces chiffres, c'est 9,5% de ventes en plus par rapport à l'année précédente. Les clients prêts à débourser 200 000 euros pour s'acheter une voiture de la mythique firme italienne sont de plus en plus nombreux. S'ils se concentrent encore essentiellement en Europe ou au Moyen-Orient, Ferrari a gagné ces derniers mois de nouveaux marchés, en Asie notamment, attirant les nouvelles fortunes de Chine ou de Taïwan. La marque rouge y a en effet amélioré ses ventes de plus de 20% l'an dernier. En 2019, pas moins de 5 modèles sont sortis de ses usines, parmi lesquelles son dernier bijou, la 812 GTS, qui peut atteindre 340 km/h, une petite folie technologique qui coûte pas moins de 336 000 euros. Ferrari reste une incarnation du luxe et une marque particulièrement solide. Pour la deuxième année consécutive, le groupe automobile a même été classé comme la marque la plus influente au monde par le cabinet de conseil Brand Finance, un classement qui répertorie 500 marques et qui a été présenté en début d'année au Forum économique mondial de Davos. Dans un monde hyper concurrentiel, Ferrari s'est aussi se renouveler en proposant notamment des modèles hybrides plus écologiques. Fort de ce succès, le constructeur a même révisé ses prévisions à la hausse pour l'année 2020 en tablant sur plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe de Maranello a par ailleurs investi dans 15 nouveaux modèles, une créativité qui devrait faire encore rêver ces riches tifosi présents dans le monde entier.
On l'a dit, c'est au Royaume-Uni que les écarts se sont le plus creusés. Parmi les travailleurs les plus pauvres, on trouve aujourd'hui les laveurs de voitures. Un métier que l'on croyait disparu, mais qui revient de la pire manière qui soit, avec des tarifs de 5 euros de l'heure, mal ou pas déclarés, à Londres, Marie Billon.
C'est peut-être l'une des seules industries où la robotisation recule. Les stations de lavage automatiques ferment. Par contre, le nombre de laveurs manuels augmente. Ce n'est pas une révolte philosophique contre la mécanisation, c'est que beaucoup de ces entreprises de nettoyage exploitent des travailleurs non qualifiés en les payant le moins possible. Impossible de savoir combien de sociétés de ce type existent. Selon le quotidien The Guardian, les autorités estiment qu'on en compte entre 10 000 et 20 000. C'est que ces entreprises essaient souvent de se faire discrètes, pratiquant l'évasion fiscale et l'exploitation des travailleurs, non-respect du salaire minimum, mais aussi des conditions d'hygiène et de protection. Les employés n'ont parfois pas de pantalons waterproof ou utilisent des produits très agressifs sans gants. Elles sont aussi souvent accusées d'esclavage moderne, employant des immigrés récemment arrivés, ne sachant pas parler la langue et ne connaissant pas leurs droits, ce qui leur permet d'abuser des travailleurs. Selon The Guardian, les raids de la police chez les laveurs de voitures font presque partie du paysage. Le phénomène est tellement répandu que l'État veut demander aux autorités locales de distribuer des licences à chaque entreprise de lavage. Pour l'obtenir, elles devraient montrer qu'elles respectent la loi. Le but est de réglementer l'industrie et de la surveiller. Et même l'Église d'Angleterre s'implique. Elle a lancé une application téléphone Safe Car Wash, nettoyage de voitures en sécurité. Le conducteur remplit un mini questionnaire sur ce qu'il voit. Si les conditions semblent inquiétantes, l'Église partage les données avec l'Agence nationale du crime et l'autorité en charge de la lutte contre le travail illégal, le GLA. L'agence est aussi en train de développer un code de déontologie pour les quelques 500 compagnies de nettoyage de voitures qui travaillent dans différents centres commerciaux du pays. Les supermarchés qui louent un espace aux laveurs de voitures, là aussi, s'assureraient que leurs locataires respectent la loi. Mais cela ne règle pas le problème des centaines d'autres entreprises qui se créent dans des parkings d'immeubles ou sur des terrains vagues et qui offrent des services pris hors compétition effectués par des travailleurs non déclarés. Get the money.
Et tout comme au Royaume-Uni, les Balkans n'arrivent pas à compenser ou équilibrer les différences de revenus entre leurs citoyens. La Serbie et la Bulgarie sont particulièrement touchées, comme nous l'explique Simon Rico.
En termes d'inégalité, la Bulgarie et la Serbie font en effet figure de mauvais élèves de la classe européenne. Selon les données 2019 de l'Agence européenne de statistique, les 20% des Bulgares les plus riches gagnent 8,2 fois plus que les 20% les plus pauvres, le pire chiffre pour un État membre de l'UE. Cet écart atteint même 8,6 en Serbie, le pire de tout le continent européen. Une tendance qui est même allée en s'aggravant au cours des 5 dernières années. Pour expliquer ces mauvais résultats, les économistes serbes et bulgares pointent la précarisation de l'emploi avec des contrats à temps partiel qui concernent un salarié sur 5 en Serbie, 2 fois plus que la moyenne de l'UE. Mais il y a aussi la fiscalité et le système d'imposition à taux fixe particulièrement inégalitaire puisque quels que soient les revenus, tous les contribuables paient pareil et qu'il n'existe aucun seuil en dessous duquel on échappe à l'impôt. En 2017, une campagne a bien été menée en Bulgarie pour mettre un terme à cette flat tax imposée 10 ans plus tôt au moment de l'entrée dans l'UE, mais elle n'a donné aucun résultat. En Serbie non plus, aucune réforme de l'impôt n'est prévue alors que le gouvernement mène lui aussi une sévère politique d'austérité. Ponctionner tous les revenus au même niveau passe pourtant mal dans un pays où 10% de la population doit déjà survivre avec moins de 85 euros par mois. Enfin, la consommation est en berne, à Sofia comme à Belgrade, portée à bout de bras par une petite minorité de citoyens, ce qui freine encore les perspectives de croissance. Quant au système éducatif, il ne permet pas de résorber ces inégalités alors que les enseignants boudent les établissements publics où les salaires sont très faibles au profit du privé que seuls les riches peuvent payer. C'est donc une spirale infernale dans laquelle sont plongés tant la Serbie que la Bulgarie et la tendance promet d'être compliquée à inverser.
Et l'analyse des inégalités, désormais scrutée, analysée au plus près par les économistes, au premier rang desquels on trouve le français Thomas Piketty. Daniel Vigneron du site myeurope.info a compilé pour nous toutes ces nouvelles données statistiques. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Avant tout, comment prendre la mesure des inégalités?
Au début des années 2010, un certain nombre d'économistes ont mis sur pied une base de données, la World Inequality Database. Elle fonctionne essentiellement en divisant par 10 ou 100, on parle de déciles ou de centiles, le spectre des revenus dans chaque pays. On peut ainsi mesurer à travers le temps l'enrichissement ou l'appauvrissement relatif des plus fortunés. Par exemple, le centile supérieur que constituent les 1% les plus riches, celui des classes populaires, les 50% les moins riches, ou encore celui des classes moyennes, les revenus des 40% suivants. On a ainsi une mesure de l'évolution des inégalités. Il ressort des travaux de l'économiste Thomas Piketty que celles-ci se sont accrues depuis l'avènement de la révolution libérale des années 1980.
Alors comment expliquer ce phénomène et quelle est son ampleur ?
Le début des années 80 marque l'éclosion des technologies de l'information symbolisées par Internet. Comme dans toutes les révolutions technologiques, les mutations économiques et sociales engendraient un double effet. Elles enrichissent de nouveaux entrepreneurs et appauvrissent la main-d'œuvre touchée par la disparition ou la transformation de nombreuses entreprises. Cette mutation a été favorisée par le retour de politiques libérales au tournant des années 80, visant à favoriser l'entrepreneuriat et l'accumulation du capital en diminuant le poids de la fiscalité des hauts revenus. Les inégalités se sont donc accrues très sensiblement, en particulier aux États-Unis, où la part des 1% les plus riches dans le revenu global est passée entre 1980 et 2015 de 11 à 20% du total des revenus. Le phénomène est plus atténué en Europe, où cette part a quand même augmenté de 7,5 à 12%.
Et quels pays en Europe ont vu le plus augmenter ses richesses ?
Alors clairement, le Royaume-Uni, où la révolution thatchérienne a été radicale. En 1980, les 1% les plus riches y captaient moins de 6% des revenus. 35 ans plus tard, leur part dépasse 14% du total, plus du double donc. Mais l'Allemagne, première économie d'Europe, n'est pas très loin, à plus de 13%, soit une hausse de 3 points. En France, ce centile supérieur est passé de 8,2 à 11% des revenus. Même s'il y a progression, des pays comme l'Italie, la Belgique ou la Suède sont parvenus à contenir sous les 9% la part des très hauts revenus et celle-ci a même diminué en Espagne et aux Pays-Bas.
On a beaucoup parlé, Daniel, de l'appauvrissement des classes moyennes.
C'est une réalité, là encore, particulièrement au Royaume-Uni, où la part de ceux qui gagnent entre 50 et 90 sur une échelle de 1 à 100 revient de 48 à 44%. Ce recul des classes moyennes est moindre en Allemagne et en Suède, et il est encore plus limité en France, tandis que rien n'a vraiment changé au sud de l'Europe et aux Pays-Bas. La Belgique fait exception, notons-le, puisque les classes moyennes y ont augmenté leur part dans la richesse totale.
Et qu'en est-il des classes populaires ?
Si l'on considère la moitié de la population qui gagne le moins, il n'y a en Europe rien de comparable à l'effondrement constaté aux États-Unis, où cette moitié a vu ses revenus relatifs s'affaisser de 37%. Cela dit, en Allemagne et en Italie, ce recul des classes les moins favorisées dépasse quand même 20%, alors qu'il n'est que de 10% en Suède et aux Pays-Bas. En France, la part des classes populaires n'est qu'en légère baisse. Leur situation est inchangée en Espagne.
Et peut-on dire que ces différences sont un effet de la redistribution ?
En partie, oui, notamment en France où les transferts sociaux sont importants. La fiscalité, en revanche, avec la disparition des très hauts taux d'imposition à 85 voire 90%, a favorisé la hausse des inégalités, surtout outre-Manche.
Et pour conclure, Daniel, un petit panorama européen.
Le creusement des inégalités y est général. Il est particulièrement accentué au Royaume-Uni où les très hauts revenus ont fortement progressé au détriment des classes moyennes. Même si elle est moins marquée, la même tendance s'observe en Allemagne, cette fois au détriment des classes populaires. Les pays du Sud sont moins inégalitaires, mais les classes défavorisées ont souffert en Italie et assez peu en Espagne. Enfin, malgré son niveau élevé d'agitation sociale et de prégnance du populisme, force est de constater que la France a à peu près préservé ses grands équilibres sociaux depuis 40 ans, même si, comme ailleurs, les très hauts revenus y sont à la noce.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
I'm good. I've had such a good time.
Et on terminera cette émission sur une carte postale. On l'appelle la Petite Venise alsacienne. Dans l'est de la France, la ville de Colmar est devenue une petite célébrité en Chine grâce à une émission de télé-réalité. Elle vient aussi d'être élue meilleure destination touristique en Europe. Avec quelle retombée Robin Dussen est allé voir sur place?
À quelques secondes du départ, le petit train touristique est plein à craquer et avec ses canaux et ses maisons à colombages colorés, Colmar est devenu un incontournable, une destination prisée des visiteurs été comme hiver. Après avoir reçu le prix du deuxième meilleur marché de Noël d'Europe en 2017, Colmar a cette année été désigné meilleure destination européenne par les internautes du site European Best Destinations. Avec ce label, l'Office de tourisme de Colmar s'attend donc à des retombées économiques, même s'il est difficile de les identifier de façon précise. Claire Weiss est la directrice adjointe de l'Office de tourisme.
Quand Bordeaux a été European Best Destination, c'est aussi arrivé au moment où ils ont eu leur classement UNESCO, où la ville a pris un autre essor avec la fin des travaux. On est un petit peu dans le même contexte à Colmar, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements, le Festival international de musique classique, évidemment les marchés de Noël, des musées qui se sont rénovés, l'ouverture d'Unterlinden. Ça fait beaucoup d'éléments, en plus de cette distinction qui aura un impact indéniablement.
Alors, campagne de communication ou vraie distinction honorifique. En tout cas, dans l'ensemble, les commerçants colmariens semblent soutenir cette initiative qui, comme d'autres, devrait finir par leur profiter. Michel Yeglé est le patron de 5 boulangeries et brasseries du centre-ville.
Ça ne peut être qu'un plus, vu que c'est affiché un peu partout et que l'Office du tourisme qui a réussi à décrocher ça fait du très bon travail. Colmar est devenu très attractif et nous, les commerçants, on en profite forcément.
Autre exemple, en 2018, où le tournage d'une émission de télé-réalité avait fait un véritable carton d'audience avec près de 2,5 milliards de téléspectateurs. Conséquence pour Colmar, une augmentation de 70% du nombre de visiteurs chinois. Au total, la petite Venise alsacienne a accueilli l'année dernière près de 3,5 millions de visiteurs.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dès demain.